Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour Francine.
Bonjour Yvan.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Francine.
Bonjour Mathieu, ça me fait plaisir.
Quelle belle journée. En tout cas, moi j'aime ça cette journée-là. On a beau être le 13 janvier, un vendredi 13.
Ah, c'est vrai, on est vendredi 13.
Eh oui. Êtes-vous superstitieux, Francine et Mathieu, Francine?
Non, pas vraiment, mais je m'amuse quand même avec ça. Ce matin, je m'en venais, puis je me disais une température comme ça. C'est sûr, c'est vendredi 13.
Ah, parce qu'il neige pas les autres jours.
Il neige, mais là, aujourd'hui, c'était vraiment la totale, hein? Rien de déneigé.
Oui, oui, oui.
Même pas les pistes cyclables.
Mm-hmm. Oui, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de venir en autobus métro. Mais non, moi, j'adore une journée de neige. J'aime beaucoup ça. Et Mathieu, superstition?
Moi aussi. Non, pas du tout. La preuve, je savais même pas qu'on était le vendredi 13.
Ben oui, c'est ça. Puis vous êtes venu à pied?
Oui, je suis venu à pied aujourd'hui.
Alors, j'ai pas remarqué si vous aviez mis vos lunettes de
non,
ski.
Je ne portais que les guêtres ce matin.
Oui, vous avez l'air un dandy.
Ah, merci.
Qui arrivait au poste en se dandinant. Bon, non.
C'est okay. Bien la première fois qu'on me dit dandy.
Oh là là, en se dandinant.
Ben, était facile, non?
Ben, c'est ça, peut-être trop.
Alors, peut-être. Francine, avez-vous regardé l'émission de télévision d'hier à Radio-Canada?
Oui, je l'ai regardé. Vous parlez évidemment de En direct du monde.
Oui, c'est ça, avec les reporters.
Les correspondants à l'étranger. Ah, oui, oui, moi, c'est une de mes émissions préférées de l'année.
Oui, 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 moi aussi. On à tous les ans, on découvre des petites facettes de ce travail-là. Moi, ce que je retiens beaucoup, c'est la passion que ces gens-là ont. Et même le déchirement à certains moments donnés entre leur désir d'être sur le terrain quelque part où il y a des bombes, où il y a des affaires, puis leur famille, leur petite famille qui sont souvent avec eux.
On doit avoir un petit remords, effectivement, parce que c'est des passionnés.
Oui, oui, vraiment.
Et cette passion-là fait que c'est pas toujours conciliable avec une vie de famille.
Mm-hmm.
Mais finalement, aujourd'hui, c'est plus facile, comme le dit celle dont j'ose pas prononcer le nom, mais qui est en poste.
Oui.
Oui, c'est ça, celle-là. J'ai toujours de la difficulté. Alors,
qui est aux États-Unis.
Qui est aux États-Unis, oui, c'est ça, qui est en Californie et autour.
Je retrouverai son nom et je m'essayerai dans la prochaine heure et demie de prononcer son nom, qui n'est pas si facile que ça. Mais elle est tellement... Moi, j'ai trouvé qu'elle dégageait beaucoup de charme. Elle racontait ses histoires, ses aventures avec beaucoup, beaucoup de détails. C'était vraiment intéressant.
Et elle a parlé de la conciliation travail-famille.
Oui, beaucoup.
De façon très claire. Oui.
Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont retenu... Il y a sûrement d'autres choses qui ont retenu votre attention cette semaine. Je le sais, je vous pose la question, mais... Je sais que je connais déjà la réponse.
On commence à se connaître un peu.
Oui, oui.
Alors, vous ne serez pas surpris que je vous dise, évidemment, que j'avais le goût de mentionner le nom de Sophie Brochu ce matin, même si on en a parlé beaucoup, parce que c'est une femme que j'admire. J'admire son parcours. J'admire ce qu'elle fait pour les autres femmes, entre autres avec l'organisme L'Effet A, hein,
oui,
où elle encourage... Le développement professionnel des jeunes femmes, principalement. J'admire aussi son courage. J'ai trouvé ça très courageux comme geste, ce qu'elle a fait. Évidemment, il y en a qui vont peut-être lui reprocher d'être partie trop vite, d'avoir lancé la serviette, mais elle est intègre avec elle-même.
Mm-hmm.
Et moi, je trouve ça courageux aujourd'hui d'être capable de faire ça parce que souvent, on a toutes sortes de bonnes raisons pour pas aller au bout. C'est triste pour nous parce que je pense que c'est sûrement lié à une question de fond, mais elle va revenir, sûrement. Elle va revenir. On n'a pas fini d'entendre parler de Mme Brochu.
Oui, ben moi, j'ai vu son entrevue cette semaine à la télévision. Et parmi toutes les personnalités publiques elle, je la crois. Quand elle nous dit qu'elle quitte pour telle raison et elle ne fera pas de politique ici et ça, elle, je la crois sans me poser de questions. Et toutes les questions qu'on se pose par la suite sur est-ce qu'il y avait ci, est-ce qu'il y avait ça, peut-être. Mais elle m'a dit quelque chose et je la crois.
Vous la croyez? Oui. Mais en fait, c'est que c'est sûrement pas un conflit comme on a voulu peut-être mettre de l'avant. Mais disons que c'est des orientations qui sont différentes et elle a des valeurs. Et quand je dis que c'est courageux, c'est ça, elle se dit « moi, je suis intègre avec moi-même ».
Tout à fait.
Et ça vaut un gros coup de chapeau.
Oui. Quand on parle souvent de faire, on dit faire de la politique comme une femme ou on faire les choses autrement parce que c'est une femme qui est... dans son cas, comme je vous disais tantôt, je la crois. Tout ce qu'elle va me dire, je vais la croire de toute façon. Mais la façon dont elle a agi, la façon dont... Dans son parcours, pas juste à Hydro-Québec.
Non.
J'y donne ma confiance complète.
Ben, moi aussi.
voilà pour ça.
Yvan, vous, de votre côté?
Oui, quelques mots. Moi, c'est sur l'équipe de soccer de Montréal, le CF Montréal. Mon Dieu, que je trouve qu'il crée une saga année après année. Ça passe par le changement du nom. Pour moi, l'impact, c'était clair, c'était ça, là, mais le changement du nom, le changement de logo, ils avaient un coach qui était vraiment, vraiment passionné, qui a réussi à créer un esprit d'équipe vraiment fort l'année dernière, qui a créé une saison vraiment formidable. Et à la fin, on le laisse partir parce qu'il y a mésentente. Et là, on embauche un entraîneur pour l'équipe de rappel. Et c'est un entraîneur qui avait un passé vraiment, vraiment controversé. Et tout le monde a réagi immédiatement. Bon, je souligne le fait que Gabriel Gervais, qui est le président de l'équipe, a réagi rapidement et a fait les correctifs. Mais il devrait avoir des antennes beaucoup plus sensibles sur ce qui est acceptable ou pas dans le petit marché de Montréal et du Québec.
Dans ce cas-là, c'est déçu. Un peu partout. Vous avez raison, hein, c'est pas juste au Québec. C'était assez inacceptable les propos qu'il a eus.
Oui, tout à fait.
Et je trouve pas qu'il a réagi si rapidement parce que, premièrement, il le savait avant l'arrivée. Ils ont minimisé l'événement. Et puis, ça a pris un certain nombre d'heures avant qu'il y ait une action qui soit posée.
On va reparler de ça dans une émission de débat qu'on va créer bientôt.
Alors, je suis prête.
À l'émission aujourd'hui, Francine, vous avez une grosse émission.
Ben en fait, on va en avoir une grosse. C'est sûr que je suis pas mal à l'avant cette semaine, mais chacun a sa semaine de gloire, finalement. Sérieusement, Marcel Dugas va nous parler d'eau. Alors, c'est pas juste d'aujourd'hui qu'on se préoccupe d'eau. D'aujourd'hui qu'on se préoccupe d'eau.
EAU, là, qu'on parle, hein?
EAU.
Oui, oui. Okay.
Une histoire d'eau au début du 20e siècle. Alors, c'est pas d'hier.
D'accord.
Je vais recevoir dans la chronique Au-delà des limites, en fait, on va la recevoir ensemble, mais je me suis entretenue avec elle cette semaine. Isabelle Dubé, c'est une entrepreneure qui a fondé une compagnie qui s'appelle Solutions Innova après avoir reçu un diagnostic dont elle va nous parler elle-même. Et elle est toujours en processus et malgré tout, même si ça ne semble pas toujours facile, elle continue d'avancer. Et vous, mon cher Yvan?
Et de mon côté, je parle avec, je renoue avec Jocelyne Richard, qui est la directrice générale de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. On va parler du début de la saison 2023 avec des choses vraiment intéressantes. Le début du spinning, moi j'ai fait du vélo tandem avec eux, mais le spinning, là, je ne savais pas. Alors, début du spinning.
Mais vous en faites du spinning?
Oui, j'en fais, oui, mais pas dans ce cadre-là, effectivement. Et ils vont faire aussi de la raquette en fin de semaine. Et ils sont toujours en train de faire des jumelages en ski de fond et en ski alpin. Alors, c'est notre principal menu d'aujourd'hui. Et vous avez même choisi la chanson du jour, qui qui... Puis...
J'ai recommandé, fait une recommandation que vous avez acceptée.
Oui, oui, vous m'avez dit, si les gens aiment ça, c'est à cause de vous, puis s'ils n'aiment pas ça, c'est ma faute.
Voilà.
Alors, allons-y.
C'est l'heure où les videurs deviennent gentils, même avec les gens qui font peur et sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte c'est moi, t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser mes pensées le passé. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. Call on me, brother. Je let it be over. Every high, every low, they will come and they go to feel alive. You gotta take the blows, you know. Call on me, please, brother. It is the nights when I'm drunk that it hits me more. Feels like it opens up the door I was keeping closed. It comes in waves and then it settles. Say it will end, but I know it won't. Well, I've been in a right mess, hard, yes, since you left me here alone. Every time your name gets brought up, I get caught with the tears that will overflow. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Sans la solitude, sans toi. J'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. So you should call on me. Call me, brother. Brother. Let me hide, let me low, let me come. Because if you love, you gotta take the blows, you know. So call on me, brother. J'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi.
C'était roulement de tambour, Call on Me avec Vianney et Ed Sheeran. C'était non seulement un duo, mais c'était un duo de langue aussi. C'était en français et en anglais.
Oui, voilà.
Alors, Francine,
pourquoi pas de temps en temps?
C'est à vous. Je pourrais vous appeler Azeb Voldé-Georgis.
Ah, Azeb Voldé-Georgis.
Oui,
c'est
ça.
On l'a cherché tous les
ça,
deux.
C'est ça le mot qu'on n'essayait pas de prononcer.
Ben, il faudrait l'appeler Azeb, ça serait plus facile. Ça, je l'avais dans la tête, mais je trouvais ça un peu familier. Elle mérite plus que ça.
Allez.
Dans la presse plus et dans le journal de Montréal, en une, on parle de l'explosion qui a eu hier à Saint-Roch-de-Lachigan. Il y a eu une déflagration dans une entreprise de distribution de propane. Et évidemment, les habitants de Saint-Roch-de-Lachigan ont été plongés dans l'angoisse. C'est une petite municipalité. Et en soirée, et encore ce matin, après vérification, trois personnes manquaient toujours à l'appel. Donc, on ne sait pas exactement le nombre de morts, blessés, le nombre de victimes qu'il pourrait y avoir à la suite de cette déflagration. En une de la presse plus, et cette fois aussi du Devoir, l'accusatrice du cardinal Ouellette sort de l'ombre. On se rappellera que cette femme, jusqu'à maintenant, on l'appelait F pour ne pas justement la nommer. Maintenant, elle a décidé au grand jour de montrer qui elle était. Elle s'appelle Pamela Grollo. Et ce combat, je le mène pour retrouver ma dignité, c'est elle-même qui le dit, et c'est aussi le titre du journal Le Devoir. Elle dit que ce combat-là, elle le mène pour retrouver sa dignité, mais aussi parce qu'elle est membre et représentante d'une église et qu'elle croit encore à sa pertinence. En fait, c'est une cause qui n'a pas encore été entendue. On peut mentionner ça de cette manière. Et le cardinal Ouellet, qui est visé par cette accusation, a de son côté répliqué en décembre dernier avec une poursuite en diffamation de 100 000 $ contre Mme Grollo. Je vais m'en tenir à ça ce matin pour les manchettes parce que j'avais le goût de vous entendre parler d'un événement qui a eu lieu hier soir. Mm-hmm. Et quand je dis événement, c'est à la fois l'événement comme tel et le personnage aussi qui est un événement. Je parle de la cérémonie à Piquet-Souban.
Oui.
Oui, qui a été organisée par le Canadien de Montréal.
Quel personnage! Quand on le voit arriver sur la glace, il y a deux éléments qui frappent au moment où il arrive. Son espèce de grand manteau. Donc, il a toujours été une carte de mode, qu'on aime sa mode ou pas, là, mais moi, je trouve que ça y va toujours bien.
Il y a un
bien.
Style, c'est le sien.
Oui, tout à fait. Et il est accompagné d'une petite fille en chaise roulante. Alors, cette image-là résume un peu notre Piquet-Souban, on peut dire notre Piquet-Souban de Montréal, qui était flamboyant peut-être trop là, pour certains. Et qui s'est impliqué personnellement dans plusieurs causes. Les deux autres choses qui m'ont vraiment frappé, puis vous allez voir, je ne parle pas de hockey finalement, c'est sa relative maîtrise du français. Il a quand même dépassé le « Bonjour Montréal ».
Même si ça fait plusieurs années qu'il a quitté Montréal,
oui,
c'était oui. une leçon, moi, j'ai trouvé pour les autres joueurs du Canadien qui
fait.
Sont
puis,
ici depuis un certain temps.
Puis lui, il est né dans la région de Toronto, il me semble, Brampton ou quelque chose genre.
En Ontario. En
Ontario.
Oui.
Alors, non, lui, il s'est aussi investi à pouvoir parler un peu avec les francophones. Et pour la cerise sur le gâteau, c'est quand il est revenu, bon, il a fait son petit laïus, il a envoyé un message intéressant aux joueurs actuels en leur disant « Mettez tout sur la glace et ils vont vraiment vous aimer. » Et puis là, il se retourne puis il voit Carey Price. Et là, ils refont ce qu'ils ont fait à l'époque avec le low five, le three low five, là, quand c'était du bonbon.
Est-ce que ça vous a ému?
Ému, non. Mais j'avais un grand... Quand je n'ai pas regardé ça, quand ça s'est passé, là, je regardais d'autres choses hier soir, mais quand j'ai vu sur les fils de presse tout ça, comment ça s'est passé, j'avais un très grand sourire dans le visage, effectivement.
Un grand sourire parce que lui semblait ému. On a même rapporté qu'il a essuyé quelques larmes à certains moments.
Ça, j'ai pas perçu ça, mais j'en doute pas une seconde.
Ouais, sensible. Parfois, oui, oui. Les sportifs, hein, ils ont une espèce de carapace, mais quand on la perce...
Quand on pense à Piquet-Souban, c'est l'ensemble de l'œuvre qu'il faut regarder dans son cas. Les joueurs du Canadien, il y a Guy Lafleur qui était de ce type-là, mais lui, il en rajoutait une couche parce qu'il est un joueur exceptionnel, Guy Lafleur. Alors, voilà pour
c'est mes... des stars, c'est des stars. On a besoin de stars aussi dans le hockey.
Oui, on a besoin plus que juste de la soupe poulet et nouilles.
C'est bien résumé, c'est bien résumé. Ça fait le tour des actualités de ce matin. Il y a un important papier en une du Devoir. Je vais y revenir dans la section technologie. Ça s'appelle l'âge tech.
Oui, vous allez voir, ça peut, c'est vraiment étonnant. Alors, on part de Flore Laurentienne et on s'en va vers l'Estrie.
Bon. Quelle musique grandiose!
Mais tout ce qu'on peut faire de grandiose pour vous, Monique, on le fait.
Ah, ben
on n'hésite pas. D'abord, parlons météo. Quel temps il fait chez vous?
Ah, c'est tellement bizarre! Je disais à mon chéri, mais ça n'a pas d'allure, on passe d'une espèce de pluie à une espèce de neige, on ne sait pas trop, en fait, c'est un mix média assez impressionnant. Mais avec cette musique grandiose, permettez-moi de vous annoncer que les Cantons de l'Est sont une région à visiter,
mais
ça,
oui,
vous le saviez déjà.
J'ai entendu ça ce matin.
Selon le prestigieux New York Times, la région touristique fait partie des 52 plus beaux endroits du monde à découvrir en 2023. Alors, notre région se classe au 49e rang grâce à une offre gastronomique épicurienne, la beauté de ses paysages et aussi à la technologie véloroute gourmande. Alors, il s'agit de la seule destination canadienne à figurer dans l'édition de 2023 de ce palmarès. Et la journaliste Anne-Lise Sorensen suggère à ses lecteurs d'essayer le vin de glace du cep d'argent et le fromage brise des vignerons de la fromagerie des Cantons.
Wow! Ça, c'est une autre liste où Céline Dion ne fait pas partie, je pense. Hein?
Mais là, on parle de lieu, pas okay. de personne.
Enfin, qu'il n'y aura pas de
Alors
manifestation
là,
à New York ou quelque chose.
Pardon?
Il n'y aura pas de manifestation à New York pour...
Non, je ne croirais pas, au contraire. Ils vont tous se ruer vers les Cantons de l'Est. Je vous parle de montagne, Yvan et Francine. Tourisme Cantons de l'Est, TCE, fait un pas de plus dans l'élaboration d'un plan montagne, avec le choix cette année de la firme chargée de l'accompagner, en fait, dans cette démarche qui vise à renforcer la vitalité de ce type de tourisme. Faut dire que le Québec a annoncé le printemps dernier une aide afin de renforcer la vitalité du tourisme de montagne. Plusieurs municipalités font bien sûr face à des défis économiques, sociaux, environnementaux, particulièrement celles qui se sont développées autour d'une seule forme de tourisme, qu'il s'agisse de ski alpin ou de la randonnée. Le ministère du Tourisme notait alors que les changements climatiques, la courte saison d'activité et la fragilité croissante des entreprises dépendantes fortement d'une seule activité, ça bouscule peut-être les modèles d'affaires qui sont à revoir. Et puis, une autre ombre au tableau, bien sûr, l'arrivée d'une récession qui pourrait peut-être influencer les comportements des voyageurs et des visiteurs, et peut-être les coûts élevés aussi maintenant d'accès aux montagnes.
Et le manque de main-d'œuvre.
Oui, aussi, mais j'avais parlé d'une stratégie, rappelez-vous, qui a été mise en place justement au Mont Hufford, et je vais vous parler du Mont Hufford. Encore une fois, on revient avec les audiences du BAP sur l'agrandissement du parc national du Mont Hufford qui vont se dérouler au cours des prochaines semaines, et le rapport devra être remis au plus tard le 30 juin prochain. Il faut se rappeler que l'agrandissement touche la municipalité du canton d'Orford, de Melbourne et de Racine, ainsi que de Saint-Denis-de-Brompton et aussi Sherbrooke. Écoutez, le parc va s'agrandir, hein, il va passer de 59,5 km² à une superficie d'environ 105 km². C'est pour une valeur, ces terrains ont une valeur de 30 millions de dollars. Il faut dire que en 2006, on avait Claude Béchard, aujourd'hui décédé, avait annoncé l'agrandissement de ce parc. Les choses avancent toujours un peu trop lentement à notre goût. Finalement, je vous parle du marché immobilier. Celui de l'Estrie serait-il immunisé contre les hausses des taux d'intérêt? Chose certaine, la région a connu une meilleure année que l'ensemble du Québec en ce qui concerne la hausse des prix obtenus pour tous les types de propriétés. Il s'agit d'une hausse appréciable, Yvan, de 19 % du prix médian.
Oui,
et semble-t-il qu'un des moteurs derrière ces hausses de prix se trouve aussi dans la baisse considérable du nombre d'immeubles disponibles sur le marché comparativement à 2021, alors que l'inventaire a diminué, le nombre d'acheteurs, lui, est plus élevé. Donc, bonne chance à ceux qui veulent se procurer une nouvelle résidence en Estrie.
Qui nous dit la personne qui a déjà une résidence en Estrie?
Moi, je l'ai peut-être acheté au bon moment.
Oui, avant même la croissance du télétravail, d'ailleurs.
C'était en plein dedans. En fait, j'ai acheté en février 2021.
Ah, oh, mon Dieu. Oui. Je pensais que c'était même avant ça. Bon, ben.
Ah non. Ça fait un an et demi, mais un peu plus d'un an et demi maintenant que je suis ici.
D'accord. Ben, merci pour ce tour d'horizon. Et évidemment, ben, on va aller visiter l'Estrie. Hein, parce que
il faut absolument.
C'est dans la liste.
Il faut absolument. L'invitation est ouverte. C'est tellement beau. C'est tellement beau, c'est apaisant, c'est magnifique.
Oui, mais essayez de mettre un peu de neige encore.
Ah, mais il y en a, hein. Tout est blanc, là. Tout est blanc, tout est couvert, alors qu'il y a quelques jours, on était plutôt dans le rouille.
Dans le rouille. Le rouille est gris.
Le rouille, là. Oui.
D'accord, on se reparle la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Du côté de l'Outaouais, dans le droit, le ministère de l'Environnement perd patience contre démolition et excavation El Piché et fils. Croulant sous les infractions à la loi sur la qualité de l'environnement, l'entreprise Démolition et excavation El Piché et fils de Gatineau est à quelques jours de voir son permis pour l'exploitation du centre de tri de résidus de construction sur le boulevard Maloney-Est être suspendu pour une durée indéterminée par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et il me semble que ce n'est pas le seul endroit qui a de la difficulté avec le traitement des détritus, etc. Donc, quelque chose à voir du côté de l'Outaouais. Du côté du Soleil à Québec, un article qui touche un peu tout le monde, en fin de compte. Pas nécessairement les gens de Québec. Est-ce qu'un massage, c'est nécessairement pour détoxifier le corps? Parce que, je ne sais pas, Francine, si vous allez souvent vous faire masser dans... Non, pas vous?
Non, moi, j'y vais pas parce que j'ai eu des problèmes de douleur et ce n'est pas toujours recommandé.
D'accord. Moi, j'y vais de temps en temps et ça me procure beaucoup de bien, de
est-ce
bien-être.
Est-ce que ça vous...
Comment
vous avez dit?
Détoxifier,
OK.
C'est parce que quand on reçoit un massage, on nous dit souvent de boire beaucoup d'eau afin de faire circuler les toxines. Il semble que c'est une rumeur urbaine. Ça n'a pas l'air vrai, pantoute. Alors, vous pouvez continuer les massages. Je vais même continuer à recevoir des massages. Mais vous n'avez pas besoin de... Vous ne pensez pas que les toxines vont sortir grâce à ça. Donc, voilà, ça, c'était dans le Soleil. On prend une petite pause et au retour, une chronique que j'attends avec beaucoup d'impatience, celle avec Isabelle Dubé. Dans le cadre de Au-delà des limites.
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Yvan Deslauriers et Francine Forget.
Passer les draps de mon lit de mort, espérant ne plus m'y coucher.
Ariane Roy, quand je serai grande.
Oh mon Dieu. Moi aussi, je me demande, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire quand
Vous allez faire grande? Quand vous allez être grand?
Oui.
Bon. Et vous, Isabelle Dubé, est-ce que vous savez ce que vous allez faire quand vous allez être grande?
Moi, je veux travailler dans le domaine du droit.
Ah, c'est clair, clair, clair. Bonjour Isabelle, vous allez bien ce matin?
Oui, merci.
Oui, malheureusement, vous deviez nous visiter en studio et puis la température du vendredi 13 en a décidé autrement.
Oui, c'était oui. De faire l'entrevue de la maison.
J'en suis bien attristée.
Oh, c'est Yvan Deslauriers que vous venez d'entendre. C'est mon collègue dont je vous ai parlé lors de la pré-entrevue.
Vous auriez été notre première, notre première invitée à venir nous voir jusqu'à présent.
Dans ce segment-là. Dans cette chronique-là. Bien oui, bien oui. On se reprendra peut-être à un moment donné, on ne sait jamais. Oui. Alors, on va passer une dizaine de minutes ensemble et on veut bien vous connaître. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours?
Mon parcours, dans la première partie de ma vie, j'ai accompagné mon conjoint dans son entreprise. Puis la priorité aussi, c'était l'éducation des enfants, d'être très près d'eux. Et ensuite, lorsque mes enfants sont devenus adultes, j'ai décidé d'écouter ma passion de faire un grand retour aux études. Donc, j'ai fait ma technique en sciences juridiques. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine du droit. Et en cabinet d'avocat, entre autres, j'avais toujours le désir d'aller plus loin, d'en savoir plus. J'ai décidé de m'inscrire à l'université, en premier avec un certificat pour voir comment ça allait aller. Puis finalement, j'ai adoré les études à l'université. J'ai fait un bac en droit et en langue par cumul de grades. C'est important pour moi de choisir tous les cours qui me convenaient. J'ai adoré le processus. Ensuite, étant donné que je suis autiste Asperger, j'ai quand même des défis. Je voulais pas faire le barreau puisque je voulais pas faire de la plaidoirie. C'était comme je ressentais que c'était une faiblesse pour moi. Donc, au niveau, j'ai décidé de poursuivre aux études supérieures pour aller chercher mon accréditation, me spécialiser dans le domaine de la médiation. Donc, maintenant, je suis accréditée comme médiatrice. Au niveau de la gestion de crise, c'était ça ma plus grande force autour de moi. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a une crise, on fait toujours appel à Isabelle pour « bon, Isabelle, elle va régler la situation. »
Elle va nous arranger ça, comme on dit.
C'est ça, tout à fait.
Mais une médiatrice, est-ce qu'il y a un domaine en particulier où c'est peu importe le conflit?
Moi, j'ai été chercher une spécialisation au niveau civil, commercial et successoral en milieu de travail aussi. Donc, ça peut être large, les domaines où on peut rencontrer des conflits. Ça peut être même entre voisins. On peut apporter de l'aide au niveau du travail. Par exemple, une maman qui aurait des difficultés à l'école avec les enfants, on peut intervenir aussi. C'est très vaste.
Isabelle, vous avez parlé de votre diagnostic. J'aimerais ça que vous nous disiez comment vous avez découvert, parce qu'il y a quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille, et c'est un diagnostic, faut dire, qui est quand même assez récent.
Oui, oui, tout à fait. Je me suis toujours sentie différente. C'est difficile à expliquer, mais il y avait une différence de la conception de la vie, la façon de penser, de voir les choses qui étaient différentes des autres. Certaines faiblesses à certains endroits.
Ce que vous perceviez comme étant des faiblesses.
Oui, il faut. Oui, tout à fait. c'est lorsque j'ai entendu un reportage à la radio de Réal Bellan avec sa fille Charlotte. Il a accompagné sa fille parce qu'elle aussi, elle vivait la même chose et puis elle a eu le diagnostic d'autisme Asperger. Donc, à ce moment-là, Réal aussi a mentionné que lui, quand il était dans le bureau avec sa fille, qui était « Oh mon Dieu, mais il y a tellement de points, on se ressemble et tout », puis lui aussi est allé chercher le diagnostic. Donc, ça m'a amené à m'interroger beaucoup plus par rapport à ça, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui me correspondaient.
Donc, vous êtes reconnue, excusez-moi Isabelle, oui. Vous êtes reconnue dans ce dont parlait M. Bellan à ce moment-là.
Oui, 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 oui. Mais il y a eu du déni, là, à un certain moment, je me suis dit, oh non, hey, non, 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 pas ça, je suis pas ça. Puis j'ai passé des tests, puis repassé, parce que des fois, on répond pas, on veut pas, non, ça se peut pas. Mais finalement, on en vient que oui, c'est de l'accepter finalement, puis d'accepter vraiment d'être ce qu'on est. Et ça ouvre des portes par la suite. C'est mon Dieu, je referai le test pour savoir au début, beaucoup plus avant. Finalement.
Oui, parce que c'est quand je disais que c'était récent, pouvez-vous, c'était pendant la période de COVID, je crois.
Oui, 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 oui. À l'aube de mes 50 ans, juste quand il y a eu la période de confinement, moi j'ai su que j'ai eu le diagnostic.
Vous avez eu le diagnostic et depuis ce temps-là, ça vous a quand même pas empêché d'aller plus loin?
Ah non, même au contraire.
Au contraire, au contraire, au contraire. Pourquoi? Parce que vous étiez soulagée?
Soulagée, mon Dieu, oui, d'apprendre c'était quoi qui était différent des autres et d'en apprendre beaucoup plus sur moi et de savoir maintenant, OK, je vais me respecter et je vais fonctionner selon ce que je suis. D'ailleurs, chaque personne devrait le faire.
Oui.
De respecter ce qu'on est.
Et vous croyez que ça va vous aider, évidemment, dans votre nouvelle aventure qui commence?
Ah, mon Dieu, oui. Oui, parce que je travaille vraiment en respect de ce que je suis.
C'est bien. Je rappelle que votre entreprise s'appelle Solution Innova et que sur le site, sur l'Internet, c'est très facile de trouver votre site, solution au pluriel, innova.com, je crois, c'est ça?
Oui.
.com, oui. Ça a été un plaisir aujourd'hui de vous parler, Isabelle. Puis on vous remercie beaucoup de ce beau témoignage et on vous souhaite la meilleure des chances dans la poursuite de vos projets emballants qui sont quand même dans la continuité de ce que vous avez fait professionnellement depuis des années.
Ben merci à vous.
Et peut-être qu'une prochaine, on se verra en studio.
Oui, on espère.
Bonne journée à vous.
J'espère. Merci. Bonjour.
Moi je raconte des histoires, des histoires que vous m'avez contées, je les raconte à ma manière, mais tout seul je peux pas les inventer, car du fond de mon cœur, c'est vous qui parlez, je suis poète à mes heures, mais surtout, je sais vous écouter, parler de tout, tout au long de mes rêves, où chaque fois que je m'arrête à penser, on me parle à l'oreille, du courage de tout ce qu'il faudrait changer, mais de l'autre j'entends qu'on préfère rester dans son coin, c'est le jour, c'est le temps, c'est dans l'air, que c'est que je vais chanter,
laisse aller. Arrêtais pas de souffler. On me dit qu'à l'orage, y'a rien que le vent qui pouvait tout faire passer. Et du fond de mon cœur, je vous entends souffler. Même si le vent peut faire peur, c'est lui qui faut chanter.
Paul Pichet, moi je raconte des histoires.
Quelle belle chanson.
Très beau, très beau. Mais une histoire, Marcel Dugas va nous en raconter une. Bonjour Marcel.
Bonjour.
Alors on se déporte au début du 20e siècle où la problématique de l'eau était aussi présente parfois, autant qu'aujourd'hui.
Oui,
du moins en 1913-1914. On vous écoute.
Oui, tout à fait. Ben, on commémore hein, ce mois de janvier les 25 ans de la crise du verglas.
Oui.
On a rappelé notamment la journée du 9 janvier, alors que Montréal est venu à deux doigts d'être A, entièrement plongé dans le noir, et B, privé d'eau potable.
Mm-hmm.
On a vraiment frôlé le désastre ce jour-là. Ça m'a donné envie de reculer à 1913, alors que Montréal avait été privé d'eau pendant toute la durée du temps des fêtes. Au début du 20e siècle, la ville décide de moderniser son réseau de distribution d'eau et on construit une canalisation souterraine en béton pour remplacer le canal de l'aqueduc comme seule source d'eau potable de l'aqueduc municipal. Le canal existe encore, il traverse les arrondissements La Salle, Sud-Ouest et Verdun. Et en effectuant des travaux dans ce secteur-là, on endommage la nouvelle conduite d'eau qui se brise le 25 décembre 1913, un bris que le service d'aqueduc n'hésite pas à qualifier de pire désastre de son histoire.
Donc, on n'a pas eu d'eau pendant le temps des fêtes.
Pendant 8 jours, en fait.
J'espère qu'on avait de la bière.
Oui, bon, on a trouvé des moyens de substitution, évidemment. Mais disons que tout a été compliqué dans ce dossier-là. Parce qu'au départ, quand la canalisation brise, on voyait que la pression d'eau diminuait, mais on ne disposait pas à ce moment-là d'équipements électroniques, informatiques ou quoi que ce soit pour trouver la fuite dans une canalisation qui se trouvait en moyenne à 7,5 mètres sous la surface du sol. Le bris a eu lieu le jour de Noël, alors que tout le monde ou presque était en congé, et la plupart des employés de l'aqueduc n'avaient pas le téléphone. Il a fallu passer de porte en porte pour aller chercher les travailleurs et les amener sur place. Et une fois qu'on a localisé la rupture, ben, il fallait creuser dans 7 mètres de terre gelée pour aller la réparer. Et si ça avait été une fissure mineure, possiblement qu'on peut colmater ça et qu'on n'en parle pas sans quelques années plus tard, mais on s'est rendu compte qu'il y avait toute une section de la canalisation qui devait être carrément remplacée et on devait interrompre l'approvisionnement en eau pour ce faire. Il a fallu fabriquer de toute urgence un tuyau métallique qui, les sources ne s'entendent pas, mais c'était entre 25 et 40 mètres de long, donc on ne parle pas d'un petit quelque chose de mineur. Et on devait insérer ce nouveau tuyau-là dans la conduite de béton. C'est la solution la plus rapide qu'ont trouvé les ingénieurs de la ville. Et heureusement qu'on n'a pas pris la solution la plus lente. Déjà, le 26 décembre, on disait donc que ça prendrait entre 2 et 8 jours avant que le service revienne à la normale. C'est la dernière estimation qui s'est avérée juste. Et on avait des réservoirs d'eau à différents endroits sur le territoire. Ils étaient à sec en même pas 24 heures. Il a donc fallu trouver des solutions de rechange. L'aqueduc avait été municipalisé dans les années 1850, mais il existait encore une compagnie privée, la Montreal Water and Power Company, qui alimentait notamment des banlieues comme Westmount. On a été bien contents de pouvoir compter sur eux. Ils ont mis leur service, leur réseau, au service de l'aqueduc municipal. Mais la Montreal Water and Power pouvait fournir environ 95 millions de litres d'eau par jour, alors que la ville en consommait 2 fois plus. C'était pas une panacée. On a demandé aux Montréalaises, d'économiser l'eau. d'utiliser de la neige. Heureusement, il y en avait cet hiver-là. Il fallait la faire fondre et faire bouillir l'eau au moins une demi-heure avant de l'utiliser. Il y a des gens qui sont tournés vers les puits artésiens ou même vers le ruisseau local. La ville, à ce moment-là, était traversée par un réseau de ruisseaux et de petites rivières qui offraient une eau d'une propreté variable. Et surtout, on a dit aux gens, ne prenez pas l'eau des radiateurs. Beaucoup de gens se chauffaient avec des radiateurs dans lesquels circulait de l'eau. Ne prenez pas cette eau-là, ça va endommager les systèmes de chauffage.
Je m'excuse, Marcel, vous avez mentionné qu'il y avait des puits artésiens à ce moment-là à Montréal.
Oui, il y en avait à certains endroits, effectivement, beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu une publicité du magasin Ogilvy du centre-ville qui disait « On a un puits artésien, si vous avez besoin d'eau, appelez-nous, on va aller vous en porter. » Il y a tout un réseau de distribution d'eau qui s'est installé comme ça. Et d'ailleurs, c'est à la troisième journée de la crise. On a commencé, non seulement il y avait des initiatives privées, mais des initiatives publiques également. On a commencé à distribuer de l'eau dans les secteurs les plus affectés, les grandes institutions également, les hôpitaux avaient besoin d'eau. On montait des citernes sur des voitures tirées par des chevaux. On avait 160 véhicules en service. Ce n'était pas toujours suffisant toutefois pour qui voulait étancher sa soif. Il y a un commerce illicite qui s'est mis rapidement en place. Et on rapporte même, Francine, imaginez-vous, qu'au moins une cargaison d'eau minérale destinée à un commerce a été volée à la pointe du fusil pendant la crise.
Oh là là, la pointe du fusil. Là, vous nous parlez de toutes sortes de choses, mais moi, je ne sais pas, là, je suis peut-être un petit peu, je ne sais pas, là, peut-être que je m'en fais pour rien, mais il me semble que si j'avais vécu à cette époque-là, j'aurais eu peur qu'un incendie se déclare quelque part et qu'on ne puisse pas l'éteindre, finalement, que les pompiers le regardent brûler.
Vous auriez eu raison d'avoir eu peur. Effectivement, le feu était une des grandes préoccupations des autorités. Ça l'était même quand l'aqueduc fonctionnait bien. D'ailleurs, on avait procédé à une mise à niveau des réseaux d'eau dans les années 1850 suite à un grand incendie qu'on n'avait pas pu combattre parce que les réservoirs étaient à sec et environ 20% des constructions de Montréal avaient été rasées à ce moment-là. Il y a eu des incendies pendant la période sans eau, certains assez importants. Les pompiers utilisaient des extincteurs chimiques. Dans certains cas, ça a été suffisant. Mais le plus souvent, il fallait trouver une borne fontaine où on avait de la pression d'eau et dans bien des cas, il fallait parcourir plusieurs coins de rue pour y arriver. Un incendie s'est déclaré rue Ontario et les pompiers ont passé une demi-heure sans pouvoir faire quoi que ce soit. « Nous avons rarement vu un spectacle aussi lamentable que celui-là », disait la presse. Habitués à se lancer à l'assaut des flammes avec une promptitude admirable, à dresser jets d'eau et échelle en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, nos pompiers, tout désorientés, couraient ça et là, cherchant vainement le moyen de se mettre au travail efficacement. Le chef des pompiers se disait même prêt à faire sauter des bâtiments à la dynamite pour éviter la propagation des flammes. Ça n'a pas été nécessaire, heureusement. Au petit matin du 30 décembre, on a complété l'installation du nouveau tuyau et on promettait le retour de l'eau d'ici la fin de la journée. On a ouvert les valves dans la nuit, mais le joint qui connectait le nouveau tuyau métallique à la conduite a cédé et on a dû tout arrêter moins de 90 minutes plus tard. La pénurie se poursuivait et un incendie majeur va se déclarer au Carré Saint-Louis le 1er janvier. Incendie qui, selon les journaux, aurait pu être contrôlé en 15 minutes si les pompiers avaient pu disposer d'une pression d'eau normale dans leur tuyau. C'est une bougie allumée dans un sapin de Noël, imaginez-vous donc, qui se serait renversée et aurait provoqué le sinistre. Malgré tous les appels à la prudence, certains citoyens et citoyennes ont quand même allumé des bougies dans le sapin pour le nouvel an. Et trois de ces belles maisons du Carré Saint-Louis ont été détruites, une quatrième sérieusement endommagée. Et on se considérait très chanceux qu'il ne ventait pas ce jour-là. Ça aurait pu avoir des conséquences épouvantables. Après l'échec du 31 décembre, on en avait assez et la patrie, va dire le journal La Patrie, la population a assez souffert. Qu'on lui donne de l'eau dans les plus brefs délais et à n'importe quel prix, cela coûtera encore moins cher que de voir Montréal tout entier passer au feu ou en proie aux plus terribles épidémies. Finalement, on a pu faire circuler de l'eau dans la canalisation réparée en fin de soirée le 2 janvier et tout était revenu à la normale dans la nuit après 8 longues journées de pénurie. L'affaire n'était pas encore réglée, que déjà, surtout à l'hôtel de ville, on s'accusait de toutes parts d'incompétence, de négligence. Les hommes d'affaires montréalais étaient furax. Imaginez-vous donc, ils ont dû, dans bien des cas, donner congé à leurs travailleurs, leurs travailleuses, entre Noël et le jour de l'an, des congés non payés, bien évidemment. Quelle horreur!
Ben, mettez-en, quelle horreur! Mettez-en, c'est inadmissible!
Et on a tenu dans le courant de l'année une enquête sur le prix de la conduite. Une enquête bien inutile, à mon avis, parce que l'archevêque de Montréal, Mgr Bruchesi, avait organisé sa propre commission d'enquête et pendant la messe de minuit du Nouvel An, il a dévoilé que la véritable cause de la pénurie d'eau, c'était que Montréal n'était plus aussi religieuse que 25 ans auparavant. Des malheurs comme celui dont nous avons actuellement à souffrir sont souvent des avertissements de Dieu. On tiendra une enquête pour tâcher d'établir les responsabilités de la situation présente, mais on ne tiendra peut-être pas assez compte de la justice divine qui se sert parfois de semblables moyens pour donner de salutaires avertissements. Donc voilà, Dieu a privé les Montréalais et les Montréalaises d'eau pendant 8 jours pour leur bien, parce que trop de gens travaillaient le dimanche au lieu d'aller à la messe.
Et voilà, tout a été dit finalement.
Voilà.
Mais oui, mais oui. Est-ce que vous avez terminé, Marcel?
Oui.
Oui, alors merci beaucoup. Ça a été un peu distrayant, mais faut pas s'apitoyer du malheur des autres, mais quand même. Merci de nous avoir raconté cette histoire. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Alors, je peux pas m'empêcher de vous dire que selon Mathieu ici, pas Saint Mathieu, mais Mathieu à la console, c'est parce qu'il n'y a pas assez de gens qui avaient payé la digue que l'eau a parti partout.
Décidément, aujourd'hui, on y va fort, on y va fort.
C'est ce que je pense. Je sais pas ce qu'on va faire le reste de l'année, mais on a mis la barre très haute.
Oui, vous avez bien raison. Et puis, on est juste en janvier.
Oui, oui, je sais. Du côté des paractualités, vous avez...
Une nouvelle fraîche.
Vous avez, comment on dit ça, brûler la une, non, c'est pas ça.
Tuer la une.
Tuer la une.
Non,
parce
pas vraiment.
Vous avez trouvé d'autres choses.
Oui, autre chose. Dans le Journal de Montréal, une fillette qui pourra marcher grâce à un appareil d'ici. C'est Martin Lavoie qui a écrit un article dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. On parle de Romy Rose qui a adoré sa marchette. Cette marchette qui a été développée par Aura Médical. Cette fillette de 4 ans et ses parents attendent depuis longtemps la livraison d'un appareil de réadaptation innovant. Faut dire que Romy Rose, oui, elle montre des retards de développement au niveau physique et au niveau intellectuel et elle n'a pas de diagnostic. Donc, c'est un peu triste parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'elle a. Ce qu'on sait, c'est qu'elle ne peut pas marcher seule et qu'il faut absolument lui tenir les mains, lui tenir les bras pour qu'elle puisse se déplacer. Et cet appareil qui a été créé par l'entreprise Aura Médical, ils l'ont essayé. Et elle est vraiment bien pour elle parce que ça accroît son autonomie par rapport à tous les modèles qu'elle avait pu essayer jusqu'à maintenant. Et donc, ils sont en attente de cet appareil-là. Et c'est pas remboursé, évidemment, par la RAMQ. Et c'est ça pourquoi j'imagine qu'on en a parlé dans le Journal de Montréal, puisque la famille a lancé une campagne de sociofinancement sur GoFundMe. Mm-hmm. Alors, je rappelle que le nom de cette jeune fille... et Romy Rose, et sa mère s'appelle Julie Petitclerc Hoffman.
Et ce qui est drôle dans ce petit article-là, c'est qu'à 4 ans ou à 4 ans et demi, je ne suis pas sûr, un enfant, ça bouge.
Exactement.
Alors, c'est Julie Petitclerc Hoffman, qui est la mère de Romy Rose, qui dit « Elle veut juste ça, être debout actuellement. » Je passe ma journée pliée en deux à lui tenir les mains. Alors, probablement que ce nouvel appareil-là, c'est beaucoup plus pour la maman que la petite fille, finalement.
Oh, non. Pensez à elle aussi. Mais c'est sûr que la maman pourra en bénéficier.
Oui, et je suppose que la petite fille étant beaucoup plus autonome, peut-être aussi que son développement va s'en ressentir.
On ne sait pas.
Alors,
on espère.
Ben, peut-être que dans quelques années, on va l'appeler pour notre chronique « Au-delà des limites hein? ». Ah. Gardons son nom pour voir.
Bon, on va être encore là, nous. C'est sûr.
on va faire notre émission à partir de notre RPA, peut-être, quelque chose.
Jamais. Je vais vous en parler dans l'âge tech.
Oui, j'ouvrais la porte justement pour au retour. C'est Francine qui va nous parler d'actualité techno. Et moi, je vais parler avec Jocelyne Richard du début des activités pour l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. À tantôt!
Vous écoutez Au quotidien, 5e édition, avec Francine Forget et Yvan Deslauriers.
Alors, on revient à notre émission. Et Francine, là, Hélène Denis, elle me taquine le jeudi parce qu'elle trouve que je parle souvent de mon âge.
Mm-hmm.
Mais là, l'article que vous allez nous raconter le contenu de l'article, ça parle d'âge et
oui.
de technologie.
Oui.
Donc, je vais me sentir visé.
Oui. Vous devriez.
Vous particulièrement. Vous, moi.
Vous, toi.
Vous, moi.
En fait, les gens de l'âge d'or, comme on les appelle, je déteste tellement faire partie du groupe de l'âge d'or, mais c'est, on appelle ça les technos de l'âge d'or. C'est dans le journal Le Devoir aujourd'hui, d'ailleurs, c'est en
oh,
une.
C'est dans un journal
et on
sérieux,
dit, oui, capitaliser sur les technos de l'âge d'or. Le désir d'une autonomie prolongée chez les personnes plus âgées, c'est un filon. On le sait, hein, on veut pas mourir, comme disait Pétula Clark, que personne
ça.
Ne veut mourir.
On veut bien vivre
et on veut rester chez soi.
Oui.
Semble-t-il, en tout cas, je sais qu'il y a des gens là, qui travaillent là-dessus, là, qui font des études à ce sujet, mais semble-t-il que la COVID, et on en fait état dans l'article du Devoir, a donné un coup quant à notre désir peut-être de quitter nos maisons, condos et s'en aller éventuellement en RPA. Semble-t-il que
résidence
nous autres, ça nous a dit non,
résidence
non on va rester
âgées.
Chez nous. Mm-hmm. Alors évidemment, ça fait qu'il y en a qui disent « Oh, s'ils restent chez eux, ils vont avoir besoin d'un petit soutien. » Alors voilà un filon incroyable pour le secteur technologique qui voit son prochain grand vecteur de croissance dans le désir, ce désir-là,
de
soutenir, ben oui, les personnes qui veulent rester à la maison. Et ce n'est pas un phénomène québécois, canadien ou américain dans le sens d'Amérique, mais à l'échelle mondiale.
Pour
c'est
ceux qui ont des moyens, quand même.
Alain McKenna, Le Devoir. Alors, on va regarder ça ensemble. Mm-hmm. Détection de chute par l'intelligence artificielle.
Ah oui. Oui.
De la psychothérapie en réalité virtuelle.
Oh.
Des montages financiers pour une retraite plus longue que prévu. Tout est sur la table. D'ailleurs, je devais vous parler du Consumer Electronic Show de Las Vegas aujourd'hui.
Oui.
Et je vous aurais dit que aussi il y a une machine qui est en train de se développer pour être capable de faire nos tests d'urine à la maison. Et on en parle ici, Alain McKenna, je ne sais pas s'il parle de cette machine, mais il dit aussi des tests d'urine pour la maison à glisser dans la cuvette de la toilette. Ça fait partie de ce portrait-là.
Mm-hmm.
Donc, la maison connectée, là, qu'on pense qu'on a aujourd'hui, il y en a déjà qui trouvent qu'il y en a trop, bien, on n'est pas fini, on n'a pas fini d'en voir.
C'est juste le début, si
on comprend. C'est juste le début, parce que l'industrie a compris qu'il y avait vraiment là un développement intéressant et les personnes qui sont à la retraite ou en voie de le devenir, bien, leur nombre ne diminuera pas avec les années. D'ici 2050, Alain McKenna rapporte qu'on comptera deux fois plus de gens âgés de 60 ans ou plus sur la Terre.
D'ici quelle année?
Bien, 2050, c'est quand même pas si loin, là,
2050
pour doubler.
Dans 28 ans?
Pour doubler. Alors, on parlera à ce moment-là de 2,1 milliards de têtes argentées. Et ça va être pour la plupart des octogénaires. Parce
donc
que
80.
80, parce que leur nombre va tripler d'ici ces années-là.
Mm-hmm.
C'est ce que estime l'Organisation mondiale de la santé, la OMS. Et le désir prononcé d'autonomie prolongée, c'est très, très fort, semble-t-il, sur un peu, ben, je dirais, notre génération là, et ceux qui nous suivent. On appelle ce mouvement-là l'âge tech.
Oh.
Age tech.
OK, age tech.
Oui, A-G-E-T-E-C-H. La hausse des frais liés aux soins de santé aussi, ben, c'est sûr que ça peut inciter à promouvoir des gadgets électroniques, de logiciels et d'intelligence artificielle.
Qui éviterait d'utiliser le système de santé actuel qui,
ben,
qui fuit de partout.
Présentement, on parle de télémédecine et de toutes sortes de choses, mais Est-ce que c'est bien adapté? Je ne sais pas. Avez-vous fait des expériences de télémédecine?
Non, pas encore.
Moi, nous autres, on en a fait une il n'y a pas longtemps, puis je vais vous dire que c'était pas très concluant.
D'accord.
On voit qu'on retrouve en télémédecine, je dirais, les mêmes effets négatifs qu'on va retrouver en médecine en présentiel. On a une réponse rapide.
Oui.
Mais on a un temps d'attente qui est très, très long. Sauf que le temps d'attente se fait chez soi et qu'on nous rappelle de temps en temps pour nous dire « Bon, ben on a toujours votre demande en ligne, on ne vous a pas oublié. » Mais juste pour dire l'expérience que nous avons vécue à la maison, nous, on a fait appel à un service de télémédecine en début de soirée et finalement, j'ai abandonné. Et j'ai vu le lendemain matin qu'au cours de la nuit, le médecin de service avait appelé.
Oh, mon Dieu!
Alors, on voit que c'est ça, le temps d'attente est encore loin. Donc, c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est qu'on manque de ressources. Et c'est ce à quoi pourrait servir cette technologie, justement, puisqu'il y a des choses qu'on pourrait faire par soi-même et qu'on pourrait conclure que ça ne nécessite pas nécessairement une intervention. Ou encore, il y aurait un signal d'alarme selon le degré du problème qu'on peut avoir, qui pourrait catégoriser, par exemple, les interventions à faire.
Donc, ça pourrait...
Ça peut aller loin.
Ça pourrait nous dire, non, tu n'as pas besoin de faire une démarche, ou ça pourrait confirmer que oui, ça vaut la peine, puis continue.
Oui, donc ça pourrait aussi offrir une espèce de soutien à une vie active plus longue que prévu.
Mm-hmm.
Parce que justement, en détectant peut-être des faiblesses et en pouvant y remédier...
plus en amont.
Bien oui, le faire, comme on dit toujours, prévenir plutôt que guérir.
Mm-hmm.
À l'heure actuelle, on n'est pas beaucoup, beaucoup là-dedans. Il y a eu... il y a toutes sortes de choses là, qui se font présentement. Entre autres, on parle d'un fabricant belge qui a présenté, début janvier, une lampe de salon connectée dotée de caméras qui suivent les gestes des gens présents dans la pièce. Alors, s'ils appellent à l'aide, s'ils tombent au sol, si parfois, vous savez, hein, personnes âgées sont plus susceptibles de perdre équilibre, oui, ou d'accrocher, je ne sais pas moi, une chaise qui n'est peut-être pas très, très bien placée. Alors, voilà. Donc, la caméra détecte et à ce moment-là, il y a un signal qui est envoyé.
Mais déjà, il y a des services pour ça. Je ne les nommerai pas, là, mais on a un collier, puis si on tombe, il y a une téléphoniste qui vérifie si on est correct ou pas.
Là. Oui, si on est correct ou pas, effectivement. Mais là, ça irait encore plus loin.
Mm-hmm.
Et on dit qu'il y a une personne âgée entre à l'hôpital toutes les 11 secondes à la suite d'un accident. Une personne âgée meurt toutes les 19 minutes en lien avec une chute.
Oui.
Et ça va faire que s'accroître avec l'âge.
Ça, c'est au Canada ou?
Ben, on parle de statistiques là, qui sont relatées par l'OMS.
Donc
évidemment, c'est au niveau mondial. Et en terminant, je vous dirais que ce qu'on dit, c'est que la santé n'a pas de prix. Mais évidemment qu'équiper un logement là, des bébelles dont je viens de parler, ça coûte à peu près 3 000 $ Donc évidemment, c'est pas c'est toutes ces lampes et appareils. Bon, on dit que c'est pas une vulgaire lampe IKEA, c'est ce que Alain Kenna a écrit dans son article. Et il conclut en disant comme on dit, la santé n'a pas de prix, mais vivre vieux et en santé, ça vaut de l'or. Et sous-entendu, pour les compagnies qui pourront éventuellement développer les gadgets technologiques.
Grand merci. Et on parle maintenant à Jocelyne Richard, qui est la directrice générale de l'Association des sports pour aveugles du Montréal métropolitain. Je vous souhaite, Madame Richard, une très belle année 2023.
Bien, merci à vous aussi.
Et cette année 2023 va commencer très, 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 très bientôt. On parle de spinning, on parle de raquettes, on parle de ski de fond et de ski alpin.
Tout à fait.
Alors, allez-y.
Alors, le spinning commence la semaine prochaine dans les locaux du Centre Claude Robillard, parce qu'on a un entrepôt où on met nos tandems à cet endroit.
Oui, oui.
Alors, le tandem, c'est-à-dire le spinning, débute mardi prochain de 6h30 à 8h le soir.
Et quand même, 1h30, c'est beaucoup de spinning, ça?
Avant la pandémie, on faisait cette période-là.
Oui, oui, oui.
Depuis la pandémie, on n'a pas fait, par exemple. Alors, il y en a une, justement, qui m'a écrit ce matin en me disant: oh, je suis trouillée, je suis capable. On y va à notre rythme, c'est pas un problème.
Je pense que c'est un des bénévoles, hein? Je pense qu'il est animateur.
Oui, c'est Mario Durand qui est l'animateur. Il fait ça depuis plusieurs années. C'est sa façon à lui de nous rendre un grand service, parce que dans le fond, il n'y a pas de frais pour payer l'animateur. Il fait ça bénévolement.
Mm-hmm.
Et puis, il apprécie ça aussi, là. Il est vraiment, vraiment attentionné à nous.
Excellent. Puis là, vous avez des vélos avec... Est-ce que vous avez des tensions que vous pouvez ajuster, des choses de ce genre-là? Comment ça fonctionne?
Oui, on est équipé. On a, je ne sais pas comment on appelle ça. J'appelle ça un stand, là.
Un support.
Un support où on dépose les vélos, les tandems sur le support en question. Fait que là, les vélos ne bougent pas.
Oh, les tandems qui servent de vélo.
Oui.
Oh là là.
Oui, c'est les tandems. Les tandems sont déposés sur un support.
Mm-hmm.
Et puis, on fait notre vélo, notre spinning sur les tandems. On se prépare pour l'été prochain.
Mais vous êtes assis en avant?
Bien, un en avant, un en arrière.
Ah, OK, je comprends.
Des fois, il y a des bénévoles qui viennent aussi, ils aiment ça, parce que en fait, quand on fait du spinning, l'idée, c'est d'entretenir le corps,
oui,
les jambes, parce que quand on enfourche nos tandems, rendu au mois de mai, c'est pas un problème, c'est plus un problème à ce moment-là. Ceux qui font du spinning l'hiver,
ils partent
au mois de mai, ils sont capables de faire le 50 km dès la première sortie. Ceux qui n'en font pas, ben c'est normal, il faut qu'ils s'entraînent, et puis voilà, c'est ça.
Moi, je fais du spinning tout seul, mais je pense que je vais aller faire un tour chez vous, parce que des fois, quand je vais vous voir puis que je suis bénévole, je tire de la langue un petit peu au début.
Oui, mais c'est ça. Non, c'est sûr que, avec Mario, c'est sûr qu'on ne fait pas les exercices. Des fois, on voit, il y a des groupes qui en font au Centre Claude Robillard, là.
Oui.
Eux autres, ils font ça sur la musique, toute rythmée, là. Et on dit, mon Dieu, c'est pas pour nous autres. Mais parce que eux, ils font ça pas mal vite, là. Tu sais, c'est vraiment intense.
Oui.
Nous autres aussi, c'est intense, mais c'est différent quand même, là. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est très, très pratique, très avantageux pour ceux qui veulent en faire. Le coût, c'est de 5 $ par personne, là. C'est pas une fortune, là.
Oui, et puis ça permet de continuer le contact social qu'on a établi pendant les périodes chaudes.
C'est ça, exactement. Oui. Alors, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine d'en faire. C'est sûr, c'est un déplacement. C'est le soir, l'hiver, c'est froid. Mais un coup, tu as franchi tous ces obstacles-là.
Mm-hmm.
Je pense que tu es content. Tu dis, j'ai donc bien fait d'y aller.
Bravo. Puis là, il neige, je sais pas, en m'en venant ce matin, il neigeait. Là. Je sais pas s'il a continué, j'espère que oui. Parce que vous faites de la raquette, vous, en fin de semaine?
Oui. Alors, mon Dieu, on peut dire que c'est compliqué l'hiver maintenant? Parce que je me souviens, quand j'ai commencé à m'occuper de la SAM en 2014, on pouvait faire de la raquette au mois de décembre.
Oui, c'est ça. On se posait pas de questions, là.
C'est ça. Depuis quelques années, c'est impossible. On fait de la raquette. C'est presque un miracle qu'on en fasse en fin de semaine. Je surveillais l'état, je surveillais la météo, puis je me disais, est-ce qu'on pourra faire de la raquette puis du ski de fond, c'est en fin de semaine?
Mm-hmm.
Finalement, Dame Nature est là.
Oui. Alors, vous allez à quel endroit en fin de semaine?
Dimanche, on va à Val-David.
Mm-hmm. Au parc régional.
Au parc régional Val-David. Et puis, les gens doivent s'inscrire. C'est sûr, on l'a annoncé hier. Donc, certainement. C'est pour ça que je l'ai mis dimanche, pour permettre aux gens d'un peu de prendre le temps de faire la lecture de l'info hebdo d'y penser, de s'inscrire. Mais je pense que là, ça va valoir la peine. J'ai des contacts dans la région. J'ai une bénévole qui loue un chalet dans cette région-là. Alors, elle m'a dit, Jocelyne, c'est le temps ou jamais d'y aller, parce que dans quelques jours, ça va être tapé, puis ce sera plus de la raquette. Non. Alors, en fin de semaine, on va à Val-David, on se présente là. Mm-hmm. Et puis la semaine suivante, c'est à l'Estérel.
À l'Estérel. Et dans les deux cas, le point de départ, c'est au métro Crémazie.
Oui.
C'est à 9h le matin.
C'est ça. Par ailleurs, ce que je commence à le dire aussi, c'est que des fois, il peut y arriver que des gens habitent dans l'Est, comme au niveau du métro Honoré-Beaugrand.
Oui, ça arrive, des gens qui vivent dans le coin d'Anjou, mettons.
C'est ça. Effectivement, il faut que les membres me l'indiquent que ça les intéresse, parce que à dernière minute, moi, je peux savoir qu'il y a un bénévole dans l'Est qui viendrait.
Ah, oui.
Donc, ça évite aux gens d'aller se promener, partir du métro X pour se rendre au métro Crémazie.
Oui.
J'essaie de faire des jumelages qui permettent d'économiser du temps. Alors, c'est important que les membres qui nous écoutent, mm-hmm. s'il y a lieu, de mentionner, j'ai un intérêt, est-ce que tu penses qu'il y a un bénévole dans l'Est ou dans l'Ouest? Ça peut être dans l'Ouest aussi.
Bien sûr.
C'est important. Le point de rendez-vous, c'est métro Crémazie, mais on peut faire des changements. Voyez-vous, cette semaine, j'ai un bénévole qui habite à La Chute, qui lui est intéressé à venir, mais j'ai des membres qui habitent à Laval. Alors, je ne ferai pas par exprès pour envoyer le bénévole au métro Crémazie, puis la membre l'envoyer là, quand lui est à proximité de chez elle.
Bien sûr.
Alors, il faut donner un point de rendez-vous, mais le point de rendez-vous peut être changé. D'ailleurs, je pense que j'ai mis une petite note dans l'info hebdo à cet effet-là concernant les transports, les points de rendez-vous, parce que ça peut inciter des gens à s'inscrire s'ils savent qu'on peut faire des modifications.
Oui, puis s'ils savent que leur énergie va être utilisée pour faire l'activité et non pas pour se déplacer pour faire l'activité.
Tout à fait.
Parlant de jumelage, oui. on va terminer notre conversation avec le ski de fond puis le ski alpin.
Oui, le ski alpin, c'est à Broumont.
Mm-hmm.
On a un instructeur qui se nomme Marc Legault. Lui, il habite dans la région de Broumont. Et puis, c'est cette personne-là qui donne la formation pour les nouveaux bénévoles qui veulent accompagner des membres en ski alpin.
Mm-hmm.
J'ai déjà commencé les jumelages parce qu'il y a des membres qui m'ont signifié qu'ils étaient intéressés d'aller skier à Broumont. Alors, j'ai quelques jumelages déjà de préparer. Eux, ils peuvent y aller à leur guise. Ils ne sont pas obligés d'attendre le samedi puis le dimanche.
Oui,
d'ailleurs, c'est préférable d'y aller sur semaine, il y a moins de monde.
Oui.
Alors, c'est ça. Ça, c'est des jumelages, j'appelle ça des binômes.
Oui. Okay.
Des binômes, fait comme ça, ben, les gens, ils vont à leur guise. L'important, c'est de me le mentionner pour les statistiques. Les fameuses statistiques qui donnent de l'argent.
Qui donnent de l'argent, oui, c'est ça.
C'est ça.
Juste par curiosité, vous, êtes-vous raquette, ski de fond ou ski alpin?
Raquette.
Vous êtes raquette?
Oui. D'accord. Plus jeune, j'ai déjà fait du ski de fond, mais c'est correct. On va laisser ça aux autres.
Parce que je sais que vous êtes une bonne pédaleuse.
Oui.
Je vous ai déjà eu comme moteur sur mon tandem.
Oui, c'est ça. Oui, ça. Le tandem, c'est l'activité que j'aime le plus dans tout ça. J'aime plus le tandem que la marche.
D'accord.
Oui, c'est ça. Mais effectivement... la raquette, j'aime ça parce qu'on se trouve dans le bois.
Oui.
Et ça sent bon.
Les sons puis les odeurs, oui, ça sent
Oui, c'est ça. Puis là, le fait que la neige vient de tomber, bien ça, je vais trouver ça intéressant.
On s'arrête ici parce qu'on pourrait en jaser encore un bon bout. Et
oui.
Au plaisir de se reparler dans un mois.
Parfait, merci beaucoup et bonne semaine.
Merci, au revoir. Et on est rendu à notre chronique où on parle de ce qu'on surveille en fin de semaine. Et je sais, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup ça, cette chronique-là. Ils prennent des notes.
Ah oui!
Oh oui!
Oh ben là, vous m'intimidez juste avant que je commence. Je sais pas, je vais peut-être être sans mots.
Je peux vous intimider?
Est-ce que c'est l'objectif recherché?
Sans mots, CENT?
Oui! probablement. Et non, pas juste 100 quand même. Ouh là là.
Allez-y, commencez.
Mont-Royal. Moi, je pense qu'avec la neige...
L'avenue ou la montagne?
La montagne. Allons faire un tour à la montagne. C'est, je me dis, une petite marche, le pourquoi pas, parce que c'est la montagne, c'est très beau quand vient de tomber de la neige. Après ça, des fois, c'est plus difficile à cette période parce que ça glace et c'est pas toujours évident.
Donc, on serait mieux d'arrêter l'émission maintenant puis s'en aller sur la montagne.
Probablement. Aller faire un petit tour au lac des Castors. Alors, je comprends que vous êtes de connivence avec Mathieu pour m'empêcher de parler ce matin. Alors, je vais enchaîner.
Qu'est-ce que vous voulez dire
avec
par
les
ce matin?
Autres. Ben, tous les matins, mais disons que c'est pire aujourd'hui, okay. Probablement à cause du vendredi 13. Je vais finir par être superstitieux.
Non, c'est parce qu'il y a une tempête de neige.
Ah, c'est vrai que les enfants s'excitent.
Une tempête de neige, le vendredi 13, là, c'est comme essayer de dire un mot.
C'est un magasin de bonbons.
Oui, tout à fait.
Je voudrais quand même vous inviter à aller voir de l'art. Pourquoi pas? Il y a une nouvelle exposition qui est commencée hier, à Projet Casa et Art Introduction, c'est 4351 sur de l'Esplanade. C'est un lieu où c'est pas vraiment une galerie d'art, mais c'en est une. C'est une galerie d'art où on peut louer cet espace-là pour faire de l'exposition artistique. Et ceux qui sont derrière l'exposition qui a commencé hier, qui s'appelle Identité et qui se tient jusqu'au 5 février, ont réuni des artistes émergents en art contemporain. Alors, si vous souhaitez commencer une collection, c'est très intéressant d'aller voir ça parce qu'il y a des choses à moins de 1000 $.
Oui, c'est quand
même... Non, mais on ne parle pas d'une affiche, là. On parle vraiment d'œuvres.
Oui. Non, ça, je comprends ce bout-là. Bon, alors, c'est le moins de 1000 $ qui m'a fait...
Mais même il y en a un peu en bas de 500 $, mais c'est pas cher. Je peux vous dire, si on compare, par exemple, mm-hmm. avec la foire papier, où quand on y va, il faut s'attendre à payer plus que 1000 $ si on veut se procurer une œuvre.
Là, rappelez-moi à quel endroit, parce que ça m'intéresse quand même.
C'est Projet Casa et Art Traduction, oui. Mais l'endroit, c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est le 4351 avenue de l'Esplanade.
Oh, de l'Esplanade.
De l'Esplanade, oui. Mm-hmm. Et si vous voulez voir ce qui est exposé avant de vous rendre, là, je vais vous donner le site, je vais vous dire c'est quelque chose le site, par exemple, hein, parce que c'est mcusercontent.com, en français, mcuser, U-S-E-R, je continue, content, content.com. Autre chose, cette semaine, alors c'est pas encore commencé, mais à partir du 18 janvier jusqu'au 25 février, à la galerie Simon Blais, 5420 boulevard Saint-Laurent, alors une galerie très établie à Montréal, qui a représenté Jean-Paul Riopel. Alors, on va faire une exposition Riopel imprime. Alors, on se rappellera que cette année, c'est le centenaire de naissance de Jean-Paul Riopel qui est décédé en 2022, qui a signé le Refus Global, qui est un grand ambassadeur de la peinture abstraite dans le monde entier. Il y a plusieurs événements qui sont prévus, et pas juste à Montréal. À un moment donné, je vous en parlerai, il y a un site sur lequel on a tous les événements, il y en a dans toutes les régions. C'est vraiment intéressant.
Puis j'ai entendu à la radio, quelque part, en fin de semaine dernière, il y a aussi une pièce symphonique qui a été conçue.
Il y a une pièce symphonique qui a été conçue. Ce sont les mêmes que ceux qui ont travaillé au spectacle dont vous avez tant aimé des œuvres de Fiori. Alors, ce sont les mêmes qui sont derrière ça. Il y a ce spectacle-là. Il y a aussi le Festival international du film sur l'art qui s'en vient bientôt au mois de mars, où il y a 5 longs-métrages sur la vie de Riopel qui ont d'ailleurs été réalisés par des diplômés, des finissants de l'INIS, l'Institut national de l'image et du son. Alors, je m'arrête ici parce que là, on va me dire que je parle trop. Prenez la poque.
Puis là, vous allez dire, ouais, non, c'est les garçons qui
m'ont fait parler. On m'a brimé.
Moi, je voulais vous parler d'un film que je voudrais aller voir. Je pense que ça vient de sortir. Ça s'appelle Women Talking, justement en parlant de droit de parole et de temps de parole. Ça a été produit par Sarah Pauley, qui est une réalisatrice canadienne qui a joué dans des choses là, qui me semblent du côté de Anne Opinion Vert ou quelque chose.
Anne Opinion Vert, mais
dans cette série-là de choses. C'est l'histoire de femmes victimes de violences dans leur communauté. C'est une communauté religieuse du côté américain. Et qui se demandent si elles doivent partir ou rester. Elles réalisent à un moment donné qu'elles sont abusées. Et on leur fait croire que c'est Dieu qui vient les visiter la nuit, puis finalement, ils sont enceintes, et etc. Puis là, ils réalisent que non, c'est, Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et elles ne savent pas lire, elles ne savent pas écrire. Puis elles débattent ensemble des conséquences de leur choix. Le film tourne autour de cette question-là. Puis deux questions qui ressortent, j'ai entendu un reportage là-dessus. Est-ce qu'elles vont quand même être accueillies dans le ciel? Parce que c'est ça leur but dans la vie, c'est d'aller au ciel à la fin. Et deuxièmement, est-ce qu'elles doivent amener leur fils avec elles? Parce que leurs fils ont été élevés dans cette croyance-là. Donc, ils répètent ce que leur père leur demande de faire. Alors, c'est un film vraiment... Bon, c'est pas Hop la vie, je pense, j'imagine, mais c'est extrêmement bien fait. Alors, moi, je vous suggère cette sortie-là. Après ça, aller faire quelque chose dans la neige, là, ça va changer un peu.
Pense qu'il y a une critique aujourd'hui dans la presse plus, hein, c'est oui. ça. Est-ce que vous me permettez de faire amende honorable?
Allez-y.
Sarah Pauley, elle a joué effectivement le rôle de Sarah Stanley dans Les Contes d'Avonlea.
OK.
Oui.
Donc, c'est l'île du Prince-Édouard.
Oui, c'est okay. ça. Elle n'était pas réalisatrice, mais elle a joué dedans.
Je vous le disais la semaine dernière, je vais voir Claire de Lune, c'est de l'art choral à la Maison Symphonique. Ça, c'est dimanche. Et puis, les nuits vont être très froides dans les prochains jours, là, autour de moins 15, moins 20. Alors, c'est le temps d'aller patiner. Vous allez voir sur le site Espace, il y a 7 sentiers glacés où aller patiner la nuit. Pas à Montréal, un petit peu autour. Et puis, je pense que c'est le temps, Francine, de dire les remerciements.
Ben oui, c'est fini déjà.
C'est fini.
C'est fini comme le petit bonhomme là, de Vittorio.
Oui,
voilà.
C'est ça, exact.
Alors, merci Mathieu Tessier, merci Yvan, merci à nos invités, Marcel Dugas, Isabelle Dubé. Et je pense que les passions de Camille sont maintenant... oui ou non, Mathieu?
Mathieu fait non.
Oh, pas encore,
pas encore.
Ah, ça s'en vient, par exemple. Bon, ben alors, oubliez ce que je vous ai dit.
Alors, il y en a qui attendent fébrilement, mais c'est pas tout à fait le temps. Alors, on se reparle, nous, vendredi prochain, à 5e édition. Bouh!